Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Dans l'émission jusqu'à 13h, la semaine des humoristes d'Inter, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis dans une vingtaine de minutes, le débat du samedi avec notre invité. Il se dit lui-même nostalgique et réactionnaire. Chacun de ses livres se vend à des milliers d'exemplaires et son nom déchaîne les passions. Il revisite l'histoire de notre pays dans un essai qui vient de paraître. On y trouve entre autres une réhabilitation des croisades ou le refus de choisir entre De Gaulle et Pétain. Éric Zemmour publie Destin français et il nous rejoindra tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et Natacha, bravo, première couve de votre vie de journaliste, celle de Marianne qui est en kiosque depuis hier. Émotion, et elle est consacrée à l'Europe.
Elle est consacrée surtout à tous les faux matchs, tout ce qu'on nous oblige à choisir. Donc nous avons dit non, nous ne choisissons pas. C'est ni Macron ni Orban, c'est ni pro-migrant ni anti-migrant, c'est ni mondialiste ni nationaliste, parce qu'il y a une troisième voie et parce que surtout ce match-là, il est faux et il passe à côté des vrais problèmes.
Et on va en parler justement de l'Europe face à la Hongrie de Viktor Orban dans un instant. Mais avant de revenir avec vous sur l'actualité, la semaine vue par les humoristes de France Inter et mise en onde par François Audouin. Et cette semaine, les humoristes ont été inspirés par la langue française, son apprentissage, sa poésie. Et vous allez le voir pour Guillermo Guiz, ses difficultés à la manier.
Je m'identifie au boulot des rappeurs parce que j'adore travailler le français. Mon bonheur dans la vie, c'est vraiment d'écrire en français. Malheureusement, c'est une langue qui n'est pas adaptée aux qualités de ma mâchoire. C'est pas que j'articule mal, c'est que j'articule mal le français. En fait, si je pouvais parler urdu, par exemple, ou une langue gutturale, je veux dire, je ferais des chroniques mémorables et les gens, ils riraient dans le public au lieu d'avoir l'air d'attendre le résultat de leur prise de sang. Mais en attendant, comme les rappeurs, moi, ma matière première, c'est ma langue. Vraiment, je bosse avec ma langue, j'essaie d'être le meilleur possible avec ma langue. Et je tiens à dire que la fin de cette vanne est disponible sur le site de Jackie et Michel. Michel est un ami. Il sélectionnera parmi nos auditeurs la meilleure chute. Le gagnant pourra gagner évidemment une place dans le premier moyen métrage coécrit et réalisé par Daniel Morin, Brame de Serre à Mont-de-Marsan. Donc voilà, je trouve ça dommage de dénigrer le rap en brandissant systématiquement ce qui se fait de plus mal écrit dans le rap. C'est vrai, parce qu'à ce tarif-là, moi je peux vous sortir des punchlines de Johnny aussi. Hein. Quand je lis quoi ? Des mots. Bon, ça donne envie d'avoir envie, plein de choses, mais pas d'ouvrir un dictionnaire. Franchement.
Difficulté d'apprentissage aussi. Constance expliquait dans Par Jupiter pourquoi l'illettrisme touche principalement les femmes.
Sur 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les femmes sont bêtes. Bêtes, 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 bêtes. La plus bête de toutes étant la femme qui vit dans les pays en voie de développement, qui se fiche totalement d'avoir une bonne note en dictée et qui préfère marcher des kilomètres tous les jours sans chaussures pour aller chercher de l'eau potable et qui préfère avoir 1000 gosses et choper le sida. Mais quelle connasse !
L'apprentissage des langues est donc une priorité pour le ministre de l'Éducation nationale. Mais alors, comment faire ? Tanguy Pastureau a trouvé la solution.
Et là, Blanquer répond, regardez nos amis scandinaves. Si les scandinaves sont bons en anglais, c'est parce qu'ils regardent des films en version originale. Après, tout dépend du film. Si vous mettez juste la série des American Pie, vous saurez parler en anglais, mais uniquement d'anus.
Non, pas je, la langue entre les dents, je.
Ce qui suffit amplement si on veut s'amuser à l'étranger. Hein. À Pattaya, on discute rarement de musique baroque. Et Blanquer, qui n'est jamais à court d'idées, il vaut mieux, hein, parce qu'il n'a pas de budget, dit, tiens, je vais proposer à France Télé de diffuser les dessins animés en version originale. Le problème, c'est que France Télé diffuse plein de dessins animés, mais français. Bref, on va devoir acheter 20 000 épisodes de Garfield en anglais juste parce que Blanquer a pété un câble, d'autant qu'il n'y a plus un sou. Donc la VO, ça va être 4 épisodes de Pimpin, le petit pingouin de Bucarest en roumain. Why not, comme on dit en espagnol.
Je comprends rien à ce que tu dis.
Jean-Michel Blanquer, qui aimerait d'ailleurs développer l'apprentissage de l'arabe à l'école, écoutez la réaction de Pablo Mira.
Moi, je vous le dis, ça va être très direct. La proposition de Jean-Michel Blanquer est tout simplement inacceptable. Laisser l'arabe être enseigné à l'école, ce serait faire entrer le renard dans le poulailler. Et moi, je veux pas me réveiller un jour en découvrant que les poules se sont renardisées et qu'elles portent désormais une barbe rousse tout en agressant au couteau d'autres poules sur le canal de l'Ourcq. Je suis perdu dans ma métaphore, j'ai l'impression.
Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible, même au niveau du son.
Et quand la langue est maîtrisée, on peut s'adonner au plaisir de la lecture à voix haute. Ce conseil donné par François Bunel à Albert Algout et Daniel Morin, c'était dans la bande originale.
Dans la grande librairie, vous encouragez très souvent, parce que je vous regarde, la lecture à haute voix. Ce que je fais moi aussi avec mes patients qui ont des problèmes d'élocution. Et pour vous prouver les bienfaits de ma méthode, j'ai fait venir un de ces patients. Bonjour, Jackie.
Bonjour, monsieur Bachelet. Jean-Dominique.
Donc, Jackie, tu avais des problèmes sévères d'élocution.
Oh, gros. Mais je suis pas de photo. Mais je dois que je de ma grand-mère, mais mes furoncles. Quand j'étais petit, j'avais déjà. J'allais manger chez elle et elle me donnait à manger de la choupe aux cailloux.
C'est quoi la choupe aux cailloux?
J'ai de l'eau chaude, des dates, tu mets des cailloux et tu manges.
Quelle
Oh, mais je suis amincu, j'ai chéré. Au début, ça fait mal. Puis quand toutes les dents sont cachées, ça va mieux, mais ça déforme quand même le bec.
Bon, Jacques, pour montrer tes progrès aux auditeurs, tu veux bien nous énoncer un texte. Tu as choisi?
Alors, j'ai un texte. Il est magnifique. C'est un classique. Omelette, un texte de chaque asperge. Être ou pas être?
À chaque asperge.
C'est un auteur anglais. Être ou pas être? Voilà! Et l'interrogation. Bon, je suis pas l'original, j'ai amélioré un peu pour être plus moderne.
Bravo. Merci, Jackie.
De rien.
Et c'était donc la semaine vue par les humoristes de France Inter. Le grand face-à-face continue jusqu'à 13h.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et on démarre le duel donc avec l'Europe. C'était mercredi au Parlement européen, 448 contre 197. Les eurodéputés votaient pour l'ouverture d'une procédure contre la Hongrie pour atteinte à l'état de droit. Écoutez le Premier ministre hongrois qui se défendait devant le Parlement européen, Viktor Orban.
La Hongrie ne cédera pas au chantage. La Hongrie défendra ses frontières, stoppera l'immigration illégale et défendra ses droits et si nécessaire contre vous également.
Comment avez-vous reçu cette décision, ce vote du Parlement européen, Raphaël Glucksmann? C'est le signe que l'Europe ne cédera pas sur le respect des valeurs démocratiques. C'est une bonne nouvelle, pour le dire rapidement?
C'est une très mauvaise nouvelle que la Hongrie contrevienne à l'état de droit, mais c'est une bonne nouvelle qu'on affirme nos principes. À quoi servirait l'Union européenne si, en son sein et bénéficiant de ses aides, des États violaient impunément les règles les plus élémentaires de la démocratie? Et il faut souligner d'ailleurs que Orban se défend sur la question des migrants, mais qu'il n'a pas été condamné sur cette question-là. Il n'a pas été condamné sur le refus d'accueillir des migrants, il a été condamné sur les violations de la démocratie et de l'état de droit en Hongrie, sur le musellement de la presse, sur le musellement de l'opposition, sur la dérive autoritaire de son régime. Donc si on fait une union et que par ailleurs on autorise les gouvernements polonais ou hongrois à bafouer nos principes, cette union est vide de sens.
Natacha.
Les choses sont complexes parce que d'abord il y a une question démocratique. Oui, bien sûr que Viktor Orban viole l'état de droit, bien sûr qu'il muselle sa presse et en effet l'Europe doit réagir. Le problème c'est que les questions que Orban jette à la figure de l'Union européenne, eh bien cette Union est incapable d'y répondre et du coup elle construit une figure d'un Viktor Orban qui peut pour certains apparaître comme un martyr et il en joue. Et donc il ne faut surtout pas entrer dans ce piège. Donc il est très bien de faire une procédure contre lui si à côté on lui répond sur ce qui aujourd'hui est en train fragiliser l'Europe, c'est-à-dire la question migratoire bien sûr, mais aussi tout le reste. Parce que si on relit le discours de 2014 de Viktor Orban où il emploie ce terme illibéral, il ne parle pas à ce moment-là ni des valeurs, ni de l'état de droit. Il ne parle pas de mettre fin aux libertés politiques. C'est hélas ce qu'il fait et il faut le sanctionner. Mais il parle de la question du néolibéralisme. Il parle de la dérégulation. Et si on ne lui répond pas sur ce plan-là, alors on fait fausse route et on lui permet de se construire une figure d'accusé.
Natacha, très bien, Natacha. On est d'accord là-dessus. La procédure engagée n'est en rien une réponse à la crise qui frappe les démocraties libérales.
D'autant que c'est une procédure longue et compliquée.
C'est bien le problème.
C'est en rien une réponse.
Maintenant, c'est vrai, hélas.
Une fois qu'on a dit ça, on est face à une situation où un État, un gouvernement, viole les principes de l'Union européenne et l'État de droit. Donc là, on est en devoir de réagir par rapport à ça. Est-ce que cette réponse est une réponse à la crise structurelle que nous traversons? Non. Mais est-ce qu'il fallait le faire ? Oui.
Oui. Oui, sauf que, encore une fois, c'est beaucoup plus vaste que cela. C'est-à-dire
que c'est plus vaste que ça.
On a un
Mais à
Parlement...
force de dire c'est plus vaste que cela, on ne répond pas à la question précise
non,
qui est posée.
Non, c'est pas ça. C'est
Qu'est-ce
que,
qu'on
justement,
fait avec M. Orban ?
Tout, je vous explique, Raphaël, que tout le problème est de se concentrer uniquement sur cette réponse précise, qui est justement, c'est ce genre de phénomène, c'est-à-dire ne s'intéresser qu'à ces questions-là, qui fait gagner Orban. Mais... C'est-à-dire que le fait que cette Union européenne, depuis des décennies, est incapable de mettre en place la démocratie européenne.
Et bien ça, c'est insupportable. Quand on parle des dérives de cette extrême droite ou de cette nouvelle droite, à chaque fois, vous dites oui, c'est vrai que c'est condamnable, mais. Mais d'accord, on est d'accord sur le mais. Ce ne sera pas la réponse. Ce ne sera pas la réponse de l'Union européenne. Ou alors l'Union européenne périra si elle
mais
se limite à ça.
Mais nous sommes bien d'accord, Raphaël, qu'à chaque fois, on se contente de la procédure. On se contente de dire, oh là là, c'est pas bien. Et à côté de ça, on
mais
règle pas les problèmes
parfois,
qui font qu'il y a des citoyens européens qui votent pour ces partis-là. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est que ces partis-là ont de plus en plus, partout en Europe, de plus en plus de voix. La Suède, maintenant, c'est-à-dire le temple de la social-démocratie. Il faut répondre à ça.
Vous avez, Natacha, raison là-dessus. Ce ne sera pas la réponse. L'insurrection aujourd'hui anti-libérale, qui menace l'état de droit avec cette démocratie libérale, eh bien, on n'y répondra pas par simplement des condamnations des gouvernements qui sont élus par les peuples. Ça, c'est évident. Il y a des réponses structurelles à apporter. Simplement, on est face à un vote. Ce vote, si on avait été au Parlement européen tous les deux, on aurait voté oui ou non à la condamnation de M. Orban. Moi, j'aurais voté oui.
Ce serait amusant de vous imaginer tous les deux eurodéputés, surtout vous, Natacha Polony. C'est donc un vote du Parlement européen. Il y a maintenant le Conseil européen, donc les États qui doivent se prononcer. Il faudra 4/5 du Conseil européen. Et pour sanctionner la Hongrie, est-ce que les capitales oseront franchir le pas et sanctionner Viktor Orban ? Ça, on ne le sait pas, puisque la Hongrie pourrait alors bloquer un certain nombre de sujets majeurs pour l'Union, comme le Brexit, comme le vote sur le budget.
Mais tout ça nous démontre que la structure aujourd'hui de l'Union européenne pose problème. Le fait d'avoir une Europe à 27, le fait d'avoir pendant des années refusé de régler les problèmes démocratiques qui se posent dans les traités européens, eh bien ça aboutit à cette situation-là, c'est totalement bloqué.
Et donc, conclusion de cet exposé qui est parfaitement juste, et donc il faut aujourd'hui donner plus de démocratie à l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut renforcer le rôle du Parlement. Aujourd'hui, le Parlement a comme pouvoir de faire des votes symboliques sur la Hongrie. Et ben, il faut que les décisions du Parlement européen, qui sont l'émanation des peuples européens, eh bien, aient valeur
non,
de règle.
Non, je pense qu'il faut surtout régler la question de savoir quels sont ceux qui nous rassemblent, et donc, par exemple, pourquoi il y a des pays qui sont des paradis fiscaux
par
en
exemple,
Europe, pourquoi nous acceptons, oui, et les paradis fiscaux.
Et bien sûr, et les paradis fiscaux.
La question du dumping fiscal qui est en train de
miner l'Europe. On va refermer ce chapitre. L'Europe, c'est un sujet qui revient régulièrement dans votre débat, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Le duel continue.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
C'est l'histoire d'un emballement cette semaine, celui qu'on a vu autour de l'enseignement de la langue arabe à l'école. Un rapport de l'Institut Montaigne qui recommande de développer l'enseignement de l'arabe pour éviter que les enfants n'aillent à la mosquée ou à l'école coranique l'apprendre. Et puis, une interview du ministre de l'Éducation nationale mardi, Jean-Michel Blanquer.
D'abord, il y a le développement de l'apprentissage des langues. Et l'arabe est une langue très importante, comme d'autres grandes langues de civilisation. Je pense au chinois qui est en train de se développer beaucoup, ou au russe. Donc oui, bien sûr, il faut développer ces langues. L'arabe, le chinois, le russe sont très importants. Il faut donner du prestige à ces langues. Et c'est particulièrement vrai pour l'arabe, qui est une très grande langue littéraire et qui doit être appris pas seulement par les personnes qui sont d'origine maghrébine ou de pays de langue arabe.
Et alors qu'il n'y a jamais eu de projet de rendre obligatoire l'enseignement de l'arabe à l'école, perte de contrôle ensuite, Nicolas Dupont-Aignan sur France Inter mardi matin.
Je suis très surpris qu'on veuille, que le ministre, M. Blanquer, veuille généraliser les cours d'arabe. J'aimerais qu'on généralise les cours de français, qu'on fasse l'assimilation, car je pense que
c'est
notre
une langue
pays,
vivante comme une autre.
Que sous prétexte de lutter contre le fondamentalisme, on nous prépare le début d'une islamisation de la France. Je trouve ça très malsain.
Quelle est la morale de cette histoire autour de l'enseignement de l'arabe et de ce dérapage incontrôlé Natacha Polony.
La morale, c'est qu'il y a des tensions et qu'il ne faut pas les nier. En revanche, la responsabilité des politiques dans ces cas-là, c'est justement d'apaiser les tensions et de penser les problèmes de façon nuancée. Il y a eu pendant des décennies un problème avec l'enseignement de ce qu'on appelait les langues et cultures d'origine, c'est-à-dire que ça, c'est un enseignement qui avait été conçu pour des enfants de familles immigrées à une époque, dans les années 70, où ces familles immigrées étaient appelées à rentrer dans leur pays d'origine. Et donc, c'était pour maintenir un lien avec le pays d'origine. Donc, ça a été fait de façon absolument incohérente et aberrante, c'est-à-dire dans l'esprit d'utiliser des professeurs qui venaient des pays d'origine, donc absolument pas un esprit républicain. On a été confronté à ce problème-là. Le ministre actuel, comme les autres avant, essaye de le régler. Donc après, on a la question de savoir s'il faut enseigner des langues à l'école primaire, dans la mesure où on a choisi de le faire.
Mais on a entendu Jean-Michel Blanquer. Comment est-ce qu'on passe de ce qu'il a dit à l'idée que l'arabe deviendrait obligatoire à l'école?
On voit bien où est le problème et où sont les fantasmes. C'est-à-dire que évidemment, on conclut qu'il n'y a que les enfants d'origine immigrée qui vont apprendre l'arabe. C'est vrai que c'est un risque, mais ça ne veut pas dire que c'est le but de Jean-Michel Blanquer, pas du tout.
Mais surtout, on a là l'exemple de politiques, d'hommes politiques qui ont décidé de jouer sur les peurs de manière complètement honteuse. Rien dans ce que disait Blanquer ne pouvait conduire à ce qu'on a conclu Dupont-Aignan ou même d'autres, comme Xavier Bertrand, dans leurs propos. Et donc, c'est juste une stratégie, c'est le mot arabe qui tout d'un coup va agiter le chiffon rouge et une certaine droite qui est un peu dans les limbes parce que Emmanuel Macron applique son programme économique décide que la question de l'enseignement de l'arabe va devenir un drapeau identitaire pour les distinguer du gouvernement et donc ils vont essayer de faire passer monsieur Blanquer pour un suppôt ou un idiot utile de l'islamisme. Ça va être franchement très compliqué quand même pour que ça marche. Je pense que ça illustre effectivement une forme d'hystérie, mais ça illustre surtout leur nullité, quoi.
Natacha.
C'est surtout que là, actuellement, nous sommes confrontés à un problème indéniable, c'est qu'il y a des parents qui mettent leurs enfants dans des écoles, alors dites coraniques. En fait, il y a toutes sortes d'écoles, c'est-à-dire ça va du catéchisme tout à fait classique jusqu'à des écoles salafistes, des cours qui, en fait, enseignent une vision du monde et de la société qui n'est pas républicaine.
Mais on n'a pas débattu de l'enseignement du chinois.
Mais bien sûr, mais parce que il n'y a pas cette dimension.
Du mandarin.
Parce que nous n'avons pas actuellement en France des parents qui déscolarisent leurs enfants pour les mettre dans des écoles qui leur enseigneraient, par exemple, la vision de la société telle que Monsieur Xi Jinping la développe. Donc c'est normal que le ministre essaye de répondre à ça et je suis ravie qu'il essaye d'y répondre par le biais de l'école républicaine avec des enseignants de la République.
Encore un mot, Raphaël.
Pour lutter contre le communautarisme, il faut que la République puisse prononcer le mot arabe sans déclencher l'hystérie de politiques, en l'occurrence on pourrait presque les appeler des politiciens même si je déteste le terme, qui n'ont plus que ça à dire. Enfin, là il y a eu une parole extrêmement rationnelle de la part d'un gouvernement qui par ailleurs n'a pas mon soutien et une réaction complètement délirante d'une droite perdue.
D'un mot, Natacha.
D'un mot. Après, la question, c'est celle de l'efficacité. C'est-à-dire que les parents qui choisissent de mettre leurs enfants dans des écoles salafistes n'ont aucune envie de leur donner des cours d'arabe. Ils veulent leur donner des cours de religion.
Le grand face-à-face de France Inter continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Moi, je suis moins discret.
Vous le venez de l'entendre, c'est Éric Zemmour, notre invité, qui parle au micro de France Inter. Bonjour Éric Zemmour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous pleurez sur notre passé comme vous regrettez l'âge d'or de votre enfance. Vous cultivez la nostalgie de la grandeur perdue de la France. Et dans le prolongement d'un suicide français, vous publiez Destin français. C'est un essai dans lequel vous voulez reconstruire l'histoire nationale des Gaulois et Clovis jusqu'à De Gaulle. Natacha et Raphaël ont lu votre livre et je vais leur laisser la parole dans un instant. Mais d'abord, c'est un livre qui commence et qui se termine avec l'Algérie, la nostalgie de l'Algérie qui est au cœur de votre histoire personnelle, familiale. Et pour la grande histoire, De Gaulle est sous stèle face à l'indépendance algérienne. L'Algérie qui est au cœur de l'actualité avec ce jeudi le président de la République qui a reconnu la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin en 1957. Maurice Audin, militant de l'indépendance algérienne, torturé, tué, geste historique, a titré le journal Le Monde. Qu'avez-vous pensé de cette décision, de cette reconnaissance du président de la République?
Alors, d'abord, je précise sur votre propos, je n'ai aucune nostalgie de l'Algérie. Pour deux raisons. D'abord parce que moi, je ne suis pas né et je n'y ai pas vécu. Et deuxièmement, parce que je ne suis pas d'une famille qui avait la nostalgie de l'Algérie.
Ma famille était plutôt contente d'avoir quitté l'Algérie où elle était miséreuse où elle vraiment c'était pas des grands colons. Et moi j'ai toujours entendu et mon père et un de mes grands-pères, mon grand-père maternel, dire merci à De Gaulle de nous avoir dégagé de l'Algérie. Donc vous voyez, c'est pas mon milieu familial.
Je vous cite, la France c'était la vie, l'Algérie la nostalgie. Vous n'avez pas grandi dans le culte de l'Algérie de papa.
Voilà.
Mais voilà. Dont acte la décision du président de la République. Écoutez, concernant Maurice Audin.
Moi, je pense que c'est toujours la même chose. C'est toujours nos chefs d'État qui battent leur coulpe sur le passé et sur la France du passé. C'est toujours la même stratégie de la repentance. C'est, vous savez, moi, j'ai déjà dit sur RTL ce que j'en pensais. Ce militant communiste, c'est sûr qu'il est sous, il est mort dans des souffrances affreuses et que c'est triste et que humainement c'est dur. Mais c'était un militant proche du FLN. C'était un porteur de valises. C'était quelqu'un qui était contre la France, qui faisait la guerre contre la France,
qui est
allié avec des gens qui massacraient les Français dans les rues d'Alger, qui massacraient les musulmans, qui les égorgeaient avec leur sexe dans la bouche. C'était ça, ses amis à ce monsieur.
Raphaël Guzman.
Non, c'était pas quelqu'un qui était contre la France, c'était quelqu'un qui était contre la politique de répression coloniale menée par le gouvernement français, légalement, ce qui ne veut pas dire qu'il était contre la France. On va revenir sur votre livre. Être contre la légalité répressive n'est pas nécessairement être contre la France.
Si.
Et par ailleurs, ce n'est pas la folie de la repentance, ça s'appelle la vérité historique.
Non.
Si, ça s'appelle la vérité historique, et une nation, contrairement à ce que vous pensez, ne s'abaisse pas quand elle éclaire ses parts d'ombre. Elle se grandit. Oui, elle se grandit. On ne vit pas dans le mensonge. Oui, mais vous pouvez connaître ce discours par cœur. Le fait est que aujourd'hui,
c'est toujours du même côté.
Mais non, c'est toujours du même côté.
Et c'est toujours la culpabilité de la France.
Mais non, c'est pas toujours la culpabilité de la France. Ça s'appelle la vérité. Mais non, ça s'appelle la vérité de l'histoire. Mais si, il a été kidnappé. Il a été kidnappé de manière illégal par l'armée.
Pas du tout.
Il a été tué. Ah bon? Parce qu'on avait le droit de tuer des gens. On avait le droit de tuer des gens.
L'armée avait tout le pouvoir.
On avait le droit de tuer des gens sans jugement.
Oui, l'armée avait tous les pouvoirs.
Oui, on avait le droit de tuer des gens sans jugement. Mais non.
Mais ce type était avec les FLN.
Éric Zemmour. Écoutez-vous.
Vous n'êtes pas
cher. Écoutez-vous. Laissez le dialogue s'installer et le débat pour que nos auditeurs s'y retrouvent. Écoutez-vous les uns les autres et ne parlez pas voix sur voix, Natacha.
Il y a deux problèmes, je pense, là-dedans. La question de ce qu'était la guerre d'Algérie à l'époque. Et on peut considérer deux points de ce point de vue-là. Le fait que c'était une guerre de libération nationale et qu'il y a eu des horreurs et des massacres des deux côtés. Et que, quel que soit ce qu'on pense du FLN et de ceux qui les ont aidés, eh bien, ils étaient pour la libération de leur pays qui était occupé.
Mais qui n'existait pas.
Et ben, qui existait.
Natacha,
puisque
c'est la France qui a fabriqué l'Algérie.
Pardon, je peux terminer, Eric, c'est moi. Donc,
non, mais ça m'amuse toujours quand vous plaquez des raisonnements.
Non, on ne plaque pas des raisonnements abstraits. On peut ensuite regretter que la France ait commis une monstruosité en ne protégeant pas les harkis, qui, eux, avaient fait ce choix d'être avec la France. Ça, c'est sur le passé et sur le présent. Le problème, la repentance est en effet en train de nous miner, mais la vérité historique et surtout le fait de purger certaines plaies n'est pas forcément de la repentance, ça dépend comment on le fait. Et sur la guerre d'Algérie qui empoisonne aujourd'hui l'ensemble de la communauté nationale, il y a des vérités qui doivent être dites pour pouvoir refermer totalement cette page et considérer que les vivants d'aujourd'hui ne sont pas comptables des fautes de leur père.
Dans ce cas-là, Natacha, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, la guerre d'Algérie hante la France. Parce que la guerre d'Algérie hante les nouvelles générations d'enfants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, qui, pour beaucoup, rêvent de prendre leur revanche éternelle sur la colonisation algérienne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, il faut, dans ce cas-là, si on veut faire la vérité historique, il faut y aller à fond. Il ne faut pas toujours du même côté. Il faut raconter les massacres du FLN, il faut raconter comment l'armée française n'a pas soutenu, n'a pas protégé les Français après l'armistice, les accords d'Évian. Il faut tout raconter.
Mais les exactions de l'armée française aussi.
Explique ses crimes.
Pourquoi vous voulez qu'on calque l'attitude de la République française sur l'attitude du FLN. Pourquoi parce vous voulez que je prenne exemple, moi, sur Bouteflika, pour savoir comment mon président français doit se comporter?
Parce que Raphaël Glucksmann, on se met toujours en position de faiblesse.
Laissez-moi finir. On va jamais pouvoir parler. C'est une bonne stratégie d'interrompre, parce que comme ça, après, on perd le
fil.
Mais ce n'est pas, en l'occurrence, un culte de la repentance. On est en France. Il y a 50 ans, ça a pris pour appeler ça une guerre. Je vous rendez compte, on n'est pas dans la repentance, on est dans le non-dit permanent. D'accord, faisons la lumière sur tous les crimes. Il se trouve que c'est la responsabilité de l'État républicain de dire quand des crimes ont été commis par l'État républicain. Emmanuel Macron le fait, il ne mérite pas le prix Nobel de la paix pour ça. Mais on ne va pas non plus continuer à mentir. C'est un crime commis par l'État français, c'est tout.
Éric Zemmour, et puis on passe ensuite au débat sur votre livre « Destin français ».
C'est toujours la même chose, non. Je répète. C'est nos politiques et nos chefs d'État qui passent leur temps à dire que dans le passé, on a mal fait. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prévoient rien, ils n'anticipent rien, ils ne préparent rien sur les guerres à venir. C'est ça leur responsabilité. Mm-hmm. C'est pas de taper sur les hommes du passé. Qu'est-ce qu'ils auraient fait dans le passé? Au moins, l'armée française, elle a gagné la bataille d'Alger.
Bon, on va en rester là et sur l'Algérie.
Non, c'est De Gaulle qui a donné l'Algérie.
Natacha Polony. Pour venir à votre livre « Destin français », et dans une, disons, dans la même veine que le débat que nous venons d'avoir, je pense que ce qui est frappant dans votre livre, c'est que à chaque fois, vous avez une idée à faire passer, une idée de la France telle qu'elle est aujourd'hui et de son histoire, et vous choisissez les faits qui vous conviennent dans l'histoire, parfois vous les tordez pour faire coller cela avec ce que vous voulez. Et je prends un exemple précis. Il y a, de façon sous-jacente dans tout le livre et à certains moments exprimé, l'idée que l'Europe, la France n'existe que quand ils ont un ennemi et que cet ennemi, en l'occurrence, ce sont les Arabes, c'est l'islam. Le chapitre sur les croisades est extrêmement frappant pour ça parce que vous occultez certaines réalités. C'est-à-dire que vous nous expliquez qu'en gros, la France et l'Europe sont mortes à partir du moment où elles ont abandonné les croisades, ce qui était un danger mortel, et qui aboutit à la chute de Constantinople en 1453, à l'abandon de Constantinople aux Turcs. Et vous oubliez un fait absolument majeur dans votre récit de l'histoire des croisades et du sens donc qu'elles ont. 1204. 1204, la quatrième croisade, quand les chevaliers francs se détournent pour aller piller Constantinople, détruire et brûler la bibliothèque de Constantinople, ce qui a affaibli de façon majeure l'Empire byzantin. Donc, c'est très simple. En fait, vous évacuez le fait qu'il n'y a jamais eu de véritable Europe pensée en lien entre les catholiques et les orthodoxes, qu'il n'y a jamais eu de conscience européenne à ce moment-là, de conscience d'une civilisation. L'Empire byzantin n'existait pas, il a été pillé et c'est cela qui l'a affaibli avant les Turcs.
J'ai bien laissé parler.
Oui, bien sûr. Allez-y maintenant.
Donc je suis en désaccord avec tout.
Mais je sais.
Vous vous trompez sur tout.
Oui, ça,
la première chose, c'est que contrairement à ce que vous croyez, je n'ai pas une idée préconçue et je tords les faits pour rentrer dans mon idée, c'est le contraire. Je suis beaucoup plus sensible à mes lectures que vous ne le croyez. Et vous donnez un très bon exemple qui est les croisades. Je ne savais rien sur les croisades. Rien du tout. Je n'avais aucune idée préconçue.
C'est pour ça que vous avez oublié 1204 ?
Non, c'est pas du tout pour ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis 1204. Je peux pas tout mettre. C'est pas une histoire globale de 1 million de pages. Bon. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas mis. Je découvre un jour, dans le cadre, voilà, je vous dis tout, de mes chroniques du Figaro du jeudi, un livre tout à fait éblouissant qui s'appelait « Histoire du monde » de René Grousset, qui est un historien oublié aujourd'hui et qui a été un orientaliste qui a inventé le musée Guimet et qui était un grand esprit, etc. Et qui a écrit ce livre dans les années 50.
Bilan de l'histoire.
Bravo. Et je fais cette chronique pour mes chroniques du jeudi du Figaro. Et je découvre cette prose magnifique, comme souvent les historiens auparavant, et je découvre aussi, je l'ignorais, que c'était un spécialiste des croisades. Donc, évidemment, le sujet m'intéresse, il en parle dans son livre, je lis d'autres livres de lui sur les croisades. Et ma thèse, que vous dites ma thèse, pas ma thèse, c'est la sienne. C'est lui, qui explique.
Vous pouvez compiler les thèses qui vont dans votre sens.
Attendez, mais c'est parce que c'est pas pareil. C'est lui, je finis parce que c'est important. C'est lui qui explique que en 1095, il y avait une offensive musulmane avec les Séljoukides, enfin bon, on passe les détails, qui fonçaient sur Constantinople. Et une fois, si Constantinople avait été prise à la fin du XIe siècle, ils fonçaient ensuite sur l'Europe occidentale. Et à l'époque, dit-il, L'Europe occidentale est très faible, très fragile. Elle n'a pas repris en main son passé grec, son passé latin. Elle est encore dans les conséquences de la chute de Rome. Et donc, quand Urbain II lance la croisade et qu'elle réussit, il stoppe cette offensive sur Constantinople, il repousse les musulmans. Attends, Natacha, 2 minutes. Et il sauve l'Europe. Il sauve l'Europe de l'islamisation, c'est-à-dire du déclin intellectuel. 3 siècles plus tard, oui, du déclin intellectuel. Je sais, ça vous déçoit, ça vous déplaît, mais c'est ça.
C'est connu que l'Andalousie à l'époque était vraiment inférieure intellectuellement.
Ah non, l'Andalousie n'est pas inférieure parce que c'est les Juifs et les chrétiens qui font tourner le turbin. Donc ils sont subis.
Je vous laisse comme le
statut de Dimi.
Alors, finissez de répondre à Natacha.
Je réponds à Natacha et je finis. En 1453, quand Constantinople est prise par les musulmans, ils foncent, comme avait prévu Urbain II et comme le raconte René Grousset 3 siècles plus tôt, sur l'Europe. Ils prennent la Hongrie, ils vont jusqu'à Alger, ils menacent Toulon, etc. Bon, sauf qu'entre-temps, il y a eu la Renaissance, la redécouverte d'Aristote, etc. Que l'Europe est partie pour son essor magnifique.
Il y a eu la Renaissance entre-temps.
Le début de la Renaissance italienne, voyons Natacha.
Bon, ne revenons pas à toute l'histoire de l'Europe et du monde.
On pourrait reparler du début de la Renaissance italienne.
C'est pour ça que René Grousset... Et donc moi... À la suite, tout humblement, je dis, les croisades ont sauvé l'Europe.
Et
c'est tout simple. Voilà.
Et vous n'avez pas répondu à 1204.
Oui, mais
on va pas passer. Dans cette histoire
on va pas passer. On va pas passer toute l'émission sur 1204.
Non, mais vous avez raison.
Mais c'est intéressant. Les croisades, c'est pas le seul élément. C'est tout le livre qui est dans cette lignée-là.
Pas du tout.
Alors là, maintenant, je vais parler. Je vous ai laissé parler sans vous interrompre.
Vous avez raison. Excusez-moi.
Non, ce qui est fascinant, c'est que vous aimez la France, j'aime la France, mais alors là, il y a une certitude absolue, c'est que ces deux pays ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous racontez une histoire, où vous pardonnez, effectivement, ou même vous défendez les croisades, vous pardonnez aux massacreurs de la Saint-Barthélemy pour expliquer quelles étaient les raisons pour lesquelles les protestants se faisaient massacrer, vous pardonnez aux persécuteurs ensuite à Richelieu qui prend et massacre La Rochelle, vous pardonnez à tout le monde, et alors vous pardonnez à tous ceux qui sont l'expression d'une autorité ferme et verticale, c'est cela.
Très juste.
Voilà, moi je ne mens
mais
pas, j'ai lu votre livre.
Ah bon.
Voilà, donc, et par contre, alors là par contre, donc, nous, notre pays n'a jamais déclarer les droits de l'homme. Il n'y a jamais eu la déclaration des droits de l'homme. Notre pays, eh bien, vous avez des ennemis dans notre pays. C'est parce qu'un pays, c'est composé de gens avec lesquels vous êtes d'accord et d'autres avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Alors, vos ennemis, plus encore dans ce livre, plus que l'islam encore, vos ennemis, c'est Voltaire. Voltaire qui est l'horreur. Alors, il faut rappeler aux gens que Voltaire, c'est quand même l'homme qui a fait que, eh bien, quand on pense liberté en Europe et dans le monde, on pense en français. Et Voltaire et Hugo. Hugo qui est vraiment l'ancêtre de la permissivité, de la religion, de la compassion, l'horreur. Hugo qui est l'auteur des Misérables, le livre que vous attaquez dans le vôtre. Hugo qui est, pour moi, l'âme, justement, de la France. C'est-à-dire cette idée que les derniers, ceux d'en bas, peuvent être élevés. Et c'était ça, l'histoire de France. Donc là, on a deux pays, mais complètement différents, qui s'appellent tous les deux la France, la vôtre et la mienne, et qu'on aime sûrement tous les deux de manière passionnelle, mais vous, votre France, elle ramène ce qui a fait l'universalité et la grandeur de la France à des choses incroyablement petites. La manière dont vous traitez Hugo et Voltaire, mais c'est fouillé dans les poubelles pour ramener la France universelle à des querelles de drames bourgeois, quoi. Enfin.
Non, mais j'ai très bien compris. Je vais vous répondre tout d'abord par une phrase d'André Suarez et vous allez comprendre exactement mon point de vue, qui est aux antipodes du vôtre, vous avez tout à fait raison. André Suarez, qui est un auteur des années 30, oublié malheureusement, alors que c'est un très grand écrivain, qui avait écrit des livres terribles pour pousser à la guerre contre Hitler, etc.
Remarquable.
Juif italien et patriote français et surtout grand écrivain. Qui était fou de Pascal et qui avait fini par écrire presque aussi bien que Pascal. Et qui disait, parce que vous allez voir, c'est la réponse à notre querelle, qui disait que le peuple français aille ou non à l'église, il a l'évangile dans le sang. Et ses plus grandes fautes sont quand il met du sentiment dans la politique. C'est exactement ce que je pense. Mais attendez, laissez-moi finir. Donc pour moi, Raphaël Glucksmann, vous êtes mes piles dans cette définition-là. Vous êtes l'horreur absolue.
Mais j'ai bien compris que je suis
l'horreur absolue. Vous êtes cause... Attendez, laissez-moi finir.
Non, mais vous me dites que je suis l'horreur absolue.
Mais oui, vous êtes l'horreur absolue, je vais vous dire pourquoi. Vous êtes comme les pacifistes qui, dans les années 20 et 30, nous ont empêchés...
C'est pas moi qui fais l'apologie de Pétain et des collaborationnistes pacifistes.
Mais c'est pas Pétain qui a perdu la guerre.
Ouais, ouais.
Pétain a gagné à Verdun.
Oui.
Et c'est après les gens comme vous qui ont ruiné sa victoire de Verdun,
bien sûr,
à Versailles,
les gens comme moi,
qui ont dit les Allemands sont gentils.
Alors, vous
c'est exactement la même chose.
L'homme qui sauve Pétain et condamne
fini.
Ben non,
je laisse
laisser Raphaël Glucksmann.
Moi, je dois laisser parler. Les autres, on me laisse pas finir.
Hugo,
j'ai pas répondu à Hugo et j'ai pas répondu à Voltaire. Hugo, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord les deux. Je précise que je les admire en tant qu'écrivain, je précise, parce que j'aime la langue française, j'aime les grands écrivains français, ce sont deux géniaux écrivains. Maintenant, Hugo, il n'empêche qu'en politique, il s'est trompé sur tout, il est l'incarnation de ce que je viens de dire, le sentiment dans la politique. Peggy lui-même dit, il aime les assassins, c'est une part de sa naïveté, il nous a introduit dans cette victimisation. Voltaire, le chantre de la liberté, etc. Alors, mais Voltaire était le plus sectaire du monde.
Mais,
c'est lui. Lisez Augustin Pochard.
Je suis l'horreur. Alors, donc,
humainement, oui.
Très bien.
On
va laisser parler Natacha Polony.
Une phrase.
Madame
du Défend, sa grande amie, lui dit, quand vous parlez de tolérance, appliquez-la d'abord vous-même.
Très bien. Donc Voltaire est une horreur. Je suis une horreur. Hugo est une horreur.
Absolument.
Nous sommes tous des horreurs. Simplement, la France a rayonné dans le monde non pas parce qu'elle a massacré, des protestants, mais parce qu'elle a proclamé que les hommes étaient libres et égaux. Et quand vous citez les évangiles, moi je ne nie absolument pas le fait que la France est une histoire chrétienne et que dans ses veines coulent les évangiles. Simplement, ce que vous écrivez dans votre livre, parce que même notre conception du christianisme nous oppose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé.
Vous êtes pour le christianisme et moi le catholicisme.
Mais bien sûr, vous dites clairement,
on va laisser
parler
Natacha
pour l'Église et contre le Christ.
Oui.
Et bien,
oui,
bien sûr.
Je le dis clairement.
Mais donc là, quand vous dites cela, vous ne comprenez à rien.
Non,
la Révolution française, vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution
verticale.
Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour, la parole à Natacha Polony.
Ce qui est intéressant en fait, Éric Zemmour, c'est que d'abord vous avez une pensée en système, c'est-à-dire une pensée ultra logique et en effet chaque chapitre s'emboîte. Non, parce que la pensée doit être dialectique aussi, Éric Zemmour. Et chez vous, la dialectique n'existe pas. L'exemple de Victor Hugo est évidemment extrêmement intéressant, puisque en gros, vous nous expliquez que parce qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a du laxisme et d'une incapacité à traiter réellement l'insécurité, il aurait fallu que Victor Hugo ne dénonce pas une époque où on envoyait au bagne quelqu'un pour avoir volé un morceau de pain.
Il a pas seulement dénoncé ça.
Il a aussi dénoncé la peine de mort. Et je sais, vous nous expliquez que c'est un scandale parce qu'il ne parle pas de la victime du condamné à mort dans Le Dernier Jour d'un Condamné, il ne parle que du condamné.
Absolument.
Justement parce qu'il estime que, quel que soit le crime, et si atroce que soit ce crime, la peine de mort en elle-même n'est pas la réponse que doit donner la société. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y ait ensuite suppression, qu'on efface le crime et la victime. Ça veut dire que la question de la peine de mort en soi mérite d'être traitée. Et surtout, encore une fois, on voit très bien que dans tout votre livre, il y a la France comme une entité, il y a la France déifiée, il n'y a jamais les Français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas l'articulation entre l'individu et le collectif, il n'y a pas l'articulation entre la liberté, l'égalité et la fraternité. Et donc, votre France est finalement totalement désincarnée.
Éric Zemmour.
Je vais répondre aux deux parce que c'est en fait le même reproche et le même différent fondamental.
Et de la part de gens qui ne sont pas d'accord.
Mais je comprends, mais en l'occurrence, vous allez voir pourquoi vous êtes d'accord. Glucksmann dit la France a rayonné parce que les droits de l'homme, parce que la démocratie. Et vous, Natacha, vous dites voilà, la France, c'est aussi, c'est d'abord la démocratie, il y a les liens entre les Français, la liberté, etc.
Je n'ai pas dit que c'était d'abord la démocratie, je vous dis qu'il n'y a pas la démocratie dans votre livre.
D'accord. Et moi, je suis en désaccord avec vous deux. Je pense que si la France a rayonné, je vais vous faire hurler. Non. Mais c'est pour deux raisons fondamentales. Mmh. Un, elle était le pays le plus peuplé d'Europe. Deux, elle avait la plus grande armée d'Europe. Les droits de l'homme, Raphaël Glucksmann, c'est le soft power de la France. C'est rien d'autre. C'est exactement comme aujourd'hui les États-Unis. Pourquoi les États-Unis rayonnent ? C'est pas parce qu'à cause de la déclaration des droits de l'homme, c'est à cause de l'armée américaine.
Mais comment est-ce que vous comprenez
et
pas
vous
que c'est
niez
lié
la réalité.
Mais c'est lié, c'est vous
problème.
Qui niez la réalité.
Pas du tout.
Vous niez...
D'ailleurs, à partir du... Et je finis. Je finis.
Après, je...
À partir du moment... Les droits de l'homme, c'est bien quand on a la grande armée de Napoléon. Quand on est, et quand on est la Chine de l'Europe, comme on nous appelait à l'époque, avec le pays le plus peuplé d'Europe. À partir du moment où on a les droits de l'homme seul, avec 1% de la population, avec des frontières ouvertes à tout vent, aux 1 milliard, bientôt 2 milliards d'Africains, ça s'appelle le suicide.
Raphaël Glucksmann.
Et moi, je voudrais revenir sur un autre point, parce que je pense qu'il y a le suicide français, destin français, il y a un fil rouge et une quête qui n'a là plus rien à voir avec l'histoire, qui est une quête idéologique et politique présente. C'est aujourd'hui, quand on vous lit, on comprend votre objectif actuel. C'est-à-dire, vous avez dans le suicide français, et là vous reprenez de manière encore plus détaillée, cette idée qu'il faut impérativement réconcilier Pétain et De Gaulle. Vous dites, dans le suicide français, c'était marquant, à chaque fois c'était seulement, enfin l'adverbe qui accompagnait, la différence c'est seulement, et là vous nous dites, ils font partie de la même famille, c'est la même famille. Et donc ce que vous voulez faire là, c'est pas du travail d'historien, là c'est du travail politique, ou métapolitique comme vous voulez. Ce que vous voulez faire, c'est effacer à tout prix cette grande fracture qui divise les droites françaises. Vous voulez impérativement nous expliquer que le 18 juin 40, c'est finalement pas si fondamental que ça, qu'en réalité, entre Pétain et De Gaulle, il y a quelques différences d'appréciation de la situation, mais qu'il n'y a aucune différence fondamentale. En faisant ça, eh bien, vous niez ce sur quoi la droite républicaine s'est fondée, c'est-à-dire la rupture avec la droite anti-républicaine, avec l'antisémitisme, avec l'État français et avec la nostalgie d'abattre cette gueuse qui est la République.
Eric Glucksmann, vous m'avez très bien lu. Et je suis j'assume tout ce que vous avez
confirme.
Dit. Non, mais attendez, je peux répondre quand même. J'assume tout ce que vous avez dit. Et je vais aller plus loin. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque vous me prêtez une intention que j'assume, prêtez-moi aussi de la bonne foi. C'est-à-dire, je vais vous dire pourquoi.
Parlez bien dans le micro, Éric Zemmour.
Pardon, excusez-moi, c'est compliqué parce que pour regarder, moi j'ai tendance à regarder mon interlocuteur et on ne peut pas parler dans le micro. Pardonnez-moi, Raphaël Glucksmann, je ne vous regarderai plus.
Survivrai.
J'en doute pas. Oui, d'abord, quand vous me dites que j'ai une idéologie et un objectif politique, oui. Est-ce que vous... Mais quand... Là où vous avez tort, selon moi, quand vous dites vous ne faites plus de l'histoire, est-ce que vous croyez que les historiens aujourd'hui n'ont pas d'objectifs idéologiques et politiques ? Ils en ont tout autant. Donc quand ils creusent cette séparation entre Pétain et De Gaulle, quand ils font de Pétain un monstre et quand ils font de De Gaulle un dieu, ils ont un objectif politique que vous avez déterminé. Briser briser les deux droites. Non. Ça, c'est un acte.
Prendre
ça...
acte d'une rupture que vous voulez effacer.
Non, oui, je veux l'effacer parce que c'est la gauche qui
mais
l'a inventé.
Mais vous voulez effacer le 18 juin 40.
C'est la gauche
vous
qui l'a inventé parce
racontez...
que ça vous arrange.
Mais non, vous vous rendez compte de ce que
ça vous arrange parce que la droite est divisée.
Ça a mis la droite au pouvoir pendant
des années. Vous voyez,
il ne me laisse pas pendant des années.
Non, pas du tout.
Mais si, ça arrange pas la gauche, ça arrange la France.
Non, pas du tout.
Ça arrange la République.
Ça met la droite dans la main de la gauche. C'est toujours la même stratégie.
Le 18 juin 40 ?
Laissez-moi finir. Ça met la gauche, la droite dans la main de la gauche. Et ça permet à la gauche de dire, toi tu es du bon côté, tu es la droite républicaine, toi tu es du mauvais côté, tu es pas de la droite républicaine. Mais ça, Raphaël Glucksmann, il faut que ça s'arrête.
Comment des gaullistes peuvent vous lire? Comment des gaullistes peuvent vous lire?
Mon cher Raphaël Glucksmann,
vous expliquez que le 18 juin 40 n'est rien.
Pas en même temps, messieurs.
Alors, je finis, parce qu'il faut aller plus loin. Vous expliquez que le 18 juin 40 est fondamental. Vous savez, oui. Vous savez qu'il y avait à Londres,
bien
après
sûr.
Le 18 juin, que des types de l'Action française.
Non, c'est pas vrai.
Ah, mais non.
Il y avait
des bons juifs et il y avait que les types de l'Action française.
Mais non, il y avait des gens de l'Action française.
Lisez Epstein et vous comprendrez tout.
Il y avait beaucoup de gens de l'Action française
qui sont
venus par patriotisme et avec l'idée que la nation était envahie et qu'il fallait la défendre. Mais il n'y avait pas que ça.
Qui pensaient des juifs le même mal que pensaient des juifs à Vichy.
Et qui ont évolué et qui ont compris leur erreur pour certains.
Non, c'est plus compliqué que ça. C'est l'imaginaire de gauche qui
ce n'est pas l'imaginaire de gauche.
Et
en effet, non, les collabos, ce ne sont pas que les gens de gauche.
Mais c'est des listes.
Les collabos, c'est les gens de gauche.
Oui, l'essentiel des collabos, c'est les gens de gauche. Oui,
qu'il y ait une gauche collaborationniste, bien sûr. Mais simplement, il y a une différence fondamentale, c'est pas la gauche et la droite. La différence fondamentale, c'est est-ce qu'on choisit le parti de la résistance et de Londres ou est-ce qu'on choisit le parti de la collaboration?
Mais c'était
et vous voulez effacer cette différence fondamentale.
Parce que c'était complémentaire.
Mais c'était pas complémentaire.
Mauriac l'a dit lui-même. Mauriac, c'est pas un fasciste. Il l'a dit lui-même. De Gaulle s'occupait de la France et Pétain des Français. Donc c'est pour ça que ça m'a fait plaisir quand vous avez dit il n'y a pas les Français, il y a la France.
Natacha Polony.
Ce n'est pas exactement dans ce sens-là et vous le savez très bien.
Et
Éric Zemmour et même pas
si
du
j'ai pas
tout.
Le droit de vous taquiner.
Non, vous avez parfaitement le droit de taquiner. Simplement, en revanche, il ne faut pas tordre les idées et les réalités historiques et surtout, il ne faut pas oublier que cette différence entre De Gaulle et Pétain, non, elle n'a pas été forgée par la gauche, Éric Zemmour. Non, ça c'est dans votre construction intellectuelle.
Non.
C'est une réflexion qui traverse aujourd'hui encore la pensée politique. Pourquoi ? Parce que justement, le clivage n'est pas forcément entre la gauche et la droite, la méchante gauche dont vous parlez, et la droite qui pourrait vaincre la gauche, c'est pas ça du tout. Les réflexions que nous devons mener aujourd'hui sont celles qui concernent justement l'articulation entre individuel et collectif, comment on recrée du collectif dans une société individualiste, la question de l'articulation entre le peuple, la nation, la patrie et tous les enjeux qui peuvent aujourd'hui attaquer cela. Et en niant la différence entre De Gaulle et Pétain, en niant le caractère fondamental de ce choix du 18 juin 40, en fait, vous effacez tout cela pour construire une espèce de fiction de débat entre la droite et la gauche. Ce qui n'existe absolument
pas. Pas du tout.
Éric Zemmour.
De Gaulle lui-même, dans les années 50, il n'est plus au pouvoir. Il est à Colombey, dans son traversée du désert. Il dit à Mauriac, père, devant Mauriac, fils, qu'il le raconte. Il lui dit, il y avait deux résistances. La nôtre, en parlant évidemment à François Mauriac et de lui, qui était nationale. Et la résistance de la gauche, qui était contre Vichy. Et il ajoute, remarquez que cette gauche n'attaquait Pétain que pour ce qu'il avait tenter de restaurer l'État. Tout est dit.
Non, tout n'est pas
excusez-moi,
dit.
Excusez-moi,
justement.
Tout n'est pas dit.
Mais si, on peut ajouter ce que De Gaulle disait de Pétain, travail, famille, patrie. Il a vendu la patrie. Je sais que vous connaissez, mais vous l'occultez.
Non, je l'occulte pas du tout. Je dis simplement que c'est comme le roman que je cite de Mérimée, que j'aime beaucoup, qui est Chronique du règne de Charles IX pendant les guerres de religion, et qui raconte la vie d'un protestant qui se convertit au catholicisme et qui finit par s'étriper avec son frère et il se tue. C'est pour ça, Pétain et De Gaulle, c'est ça. C'est-à-dire que ils ont fait des choix différents qui étaient au départ complémentaires, je pense, même dans leur tête. C'est-à-dire le glaive et le bouclier. Pétain protège les Français et sauve les éléments fondamentaux de la France. Parce que ce que vous oubliez à chaque fois, c'est que la France était au bord de ce que Pétain lui-même appelait la polonisation. C'est-à-dire le partage, la dislocation. C'était la terreur des élites françaises. Ils tentent de faire comme les Prussiens ont fait en 1806 après la défaite d'Iéna face à Napoléon. C'est-à-dire céder, se soumettre au vainqueur, parce qu'on est bien obligé, et reconstituer ses forces pour prendre sa revanche après.
Vous voulez que je vous dise, en fait, ce qui me choque le plus, c'est même pas ça.
Ça, c'est la vérité historique,
c'est pas du tout la vérité historique, laissez-moi parler.
Je vous en prie.
Ce qui me choque le plus, c'est la petitesse des explications. C'est que vous ramenez tout à votre niveau. C'est la manière dont, par exemple, il y a un paragraphe, mais je vous ai vraiment lu, il y a un paragraphe où vous expliquez le départ de De Gaulle à Londres, et je ne sais même pas si vous en souvenez, vous expliquez le départ de De Gaulle à Londres, parce qu'il regarde par-dessus une épaule pour voir s'il est dans la liste du gouvernement de Pétain, et que voyant qu'il n'y est pas, il part à Londres. Mais vous connaissez, parce que vous êtes cultivé, la phrase de Hegel, « Nul n'est grand pour son valet de chambre ». Mais là, vous êtes la dame pipi de l'histoire française, quoi. C'est-à-dire que vous réduisez le départ de De Gaulle à une vulgaire chose dégueulasse de vouloir être sur une liste, sur une liste gouvernementale.
Il y a tout dans les motivations des hommes. Il y a des choses mesquines, médiocres. De Gaulle n'en était pas étranger. En Algérie, il ne s'est pas converti, il ne s'est pas comporté noblement.
Vous faites pareil avec Voltaire, vous faites pareil avec Montaigne.
Et alors
Quand je dis que Pétain ne part pas,
il fait son erreur tragique. Parce qu'on n'aurait pas cette conversation si en novembre 1942, il était parti en Algérie. Quand je raconte que c'est parce qu'il a peur de l'avion, c'est minable aussi. Et pourquoi vous ne le faites pas remarquer?
Mais c'est minable parce que c'est une... Mais non, mais je suis d'accord. Oui, c'est minable parce que vous effacez toute divergence idéologique entre les deux. Il ne part pas simplement parce qu'il a peur de l'avion. Il part pas parce que jusqu'en 44, il continue à servir la soupe.
Pas du tout.
Mais bien sûr, à l'occupant.
Natacha Polony.
Mais pas du tout.
Natacha Polony, l'émission touche à son terme.
Je vous en prie.
Oui, l'émission touche à son terme. Et notre conclusion, je pense, c'est que votre vision de l'histoire, en effet, comme le disait Raphaël, sert une vision politique. La question aujourd'hui est de savoir, vous parlez très souvent de guerre civile. Vous expliquez que vous craignez la guerre civile. Mais la guerre civile, elle vient quand des systèmes s'affrontent sans pouvoir débattre, sans pouvoir se répondre. La guerre civile, c'est les guerres de religion, justement, protestants contre catholiques, où chacun est persuadé qu'il détient la seule vérité, cette pensée monothéiste qui est exactement celle que vous construisez dans votre livre. Et moi, c'est ça qui me dérange. Quand je vous parle de l'absence totale de pensée dialectique chez vous, c'est que vous êtes dans un bloc, dans une pensée monothéiste, et tous ceux qui ne pensent pas comme vous sont immédiatement rejetés dans ce camp fantasmé de la gauche ou les angélistes ou les laxistes, et en cela, à aucun moment, vous ne prenez la responsabilité de dépasser les affrontements pour essayer d'éviter ce danger gravissime de la guerre civile.
Il nous reste une poignée de secondes.
Mais Natacha, excusez-moi, la guerre civile, si guerre civile il y a, elle se fera avec l'islam. Donc il n'y a aucun rapport avec ce que vous dites. Le seul sujet. Il y aura l'islam plus les collabos de l'islam, et il y aura en face les gens qui essayeront de sauver la France.
Il y a aussi ces haines qui montent par l'incapacité à débattre avec les gens qui ne pensent pas comme vous.
Votre problème n'est pas d'être dogmatique. Votre problème, c'est que votre France, c'est fondamentalement une France autoritaire, et que vous êtes la dame pipi de cette France-là. Et voilà, c'est ça votre problème.
S'il n'y avait pas eu la France autoritaire, Raphaël Glucksmann, vous ne seriez pas là pour cracher dessus. Parce qu'il n'y aurait pas de France.
Mais je ne crache pas dessus. Moi, je célèbre une autre France. Je célèbre une France que vous ignorez et sur laquelle vous crachez. Voltaire, vous crachez sur Hugo,
vous crachez sur la déclaration des droits de l'homme. Vous aimez la France qui se tue en mettant du sentiment dans la
mission.
Qui défend les droits de l'homme. Demain midi pour Questions politiques. À demain donc.